Une production, les podcasteurs.
Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde ? Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes ? Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery-Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, la méditation bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. En pleine présence. Je suis arrivée en retard. Pour un podcast que j'enregistre, c'est quand même pas mal. Donc c'est mon invité qui a attendu. Et pendant toute cette période où j'arrivais, où j'étais en train d'arriver et où je voyais bien que le temps était contre moi, plutôt que de serrer encore plus les dents et de m'énerver, j'ai fait un exercice de méditation en venant que je voudrais partager en fait avec vous. On était dans une voiture là juste à l'instant et j'étais serrée entre quatre camions. Un camion devant moi, un sur le côté sur la droite et un sur la gauche, un derrière. Situation improbable où je ne pouvais même pas sortir de la voiture et où la femme qui me conduisait ne pouvait pas non plus sortir de la voiture. Et en fait, j'ai accepté complètement de relâcher puisque je savais que l'énergie que j'allais mettre dans l'énervement allait jouer contre moi. Ok, j'ai dit j'accepte. J'accepte cette situation, j'accepte de recevoir l'enseignement de cette matinée. Et j'ai commencé à respirer profondément. Et bon, évidemment, la femme qui conduisait, qui est chauffeur de taxi, elle était pas exactement dans la même vibration que moi. Elle était très angoissée par le fait d'être prise au piège dans sa voiture de quatre camions gigantesques. On peut penser à plein de symboliques. Mais moi, j'ai commencé vraiment à me dire, si je veux que le calme apparaisse, alors je dois le vibrer le plus profondément possible. Et j'ai commencé à prendre des respirations longues et profondes et je vous propose juste de redresser la colonne vertébrale, de peut-être vous asseoir sur le rebord de votre siège et plutôt que de commencer à écouter ce podcast en courant, en essayant d'attraper le plus vite possible un train, ou bien en coupant des légumes le plus rapidement possible, ou en faisant une autre tâche, juste prenez un instant pour vous, asseyez-vous, vous n'avez aucun temps à perdre, tout est à gagner, tout est devant vous. Inspirez par le nez, expirez par le nez, et prenez conscience du souffle qui est là, et que rien ne se déroule jamais contre vous, mais pour vous. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Et à mesure que j'inspire et que j'expire par le nez, je peux me reconnecter à l'instant présent. Et à l'instant présent, je ne suis ni en retard ni en avance, je suis juste au temps juste. Pas d'inquiétude sur le futur, pas de nostalgie du passé, je suis juste ici et maintenant pleinement présente. Prenez conscience des mouvements dans votre corps, de peut-être de votre ventre qui bouge à l'inspire et à l'expire. Prenez conscience de votre cage thoracique qui grandit à mesure que l'air frais entre par vos narines et de ce qui se serre lorsque vous expirez l'air tiède du dioxyde de carbone qui sort de vos narines. Et puis prenez une grande inspiration. Retenez le souffle. Expirez par la bouche et relâchez. Voilà, ça y est, on est prêt pour écouter. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'accueille Angèle Ferremac, qui est la créatrice de La Guinguette d'Angèle et qui est aussi l'autrice de nombreux livres de cuisine. J'ai découvert Angèle avant même qu'elle n'ouvre sa première échoppe, son premier restaurant. Elle distribuait de minuscules cheesecakes avec des fleurs fraîches. J'avais jamais vu ça en fait avant, des fleurs qui venaient sur des pâtisseries dans une épicerie bio tout près de chez moi. Et j'étais assez intriguée, j'ai voulu en savoir plus. Et lorsque je me suis rendue dans sa cuisine du 14e arrondissement, on a eu un vrai coup de foudre mutuel l'une pour l'autre. Donc j'ai fait un premier reportage sur le blog que j'avais au départ et qui s'appelait Ma Récréation, avec une amie photographe. Et elle nous a livré une recette et sans le savoir, elle a ouvert une porte qui était totalement verrouillée dans mon cerveau. C'était celle de la cuisine végétale, végétarienne. Une cuisine vivante que j'avais jamais véritablement explorée. À l'époque, elle menait des études pour devenir naturopathe, tout en développant son activité de jeune chef et de traiteur pour des événements dans le milieu de la mode et de la beauté. Donc autant vous dire que lorsque j'étais journaliste dans le milieu de la beauté, on s'est beaucoup croisés à de nombreux événements où on la voyait, elle et sa troupe, avec des couronnes de fleurs sur la tête et des jolis tabliers blancs. Quelques années plus tard, je suis revenue la prendre en photo pour mon blog et je l'ai observée avec son équipe qui avait beaucoup grandi, rire, chanter et cuisiner. J'étais encore journaliste pour M, le magazine du Monde, et cette matinée passée dans ses cuisines m'avait fait chavirer le cœur parce que je me rendais compte que c'était possible de travailler intensément, parce que je peux vous dire que ça bosse, et en même temps de s'amuser. Angèle, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour la cuisine ?
Bonjour Lily. Je crois que ma passion pour la cuisine est née avec ma naissance, ma passion pour la vie en fait. Je pense qu'évidemment mes parents ont beaucoup aidé à me transmettre ça. J'ai eu la chance d'être... avant tout, merci beaucoup pour cette présentation qui était touchante. Moi, je chiale tout le temps en ce moment.
Ouais, t'es émue, hein.
Ouais, un peu, ouais. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, en fait, qui avaient déjà ce sens-là, d'être proche de la nature très tôt. Et je pense que ça, parce qu'en fait, c'est la cuisine que j'aime, mais c'est les animaux, la nature, la vie, le soleil... En fait, c'est un peu tout qui me plaît, mais bon, il y a quelque chose d'immédiat qui est quand même génial avec la cuisine. Et je pense qu'elle est née donc très tôt, aussi par la qualité de la nourriture à laquelle on avait accès. Quand on était dans cette nature, on allait très très souvent dans une ferme au-dessus de Grasse, dans le sud de la France. Et en fait, on allait au potager, on faisait des pots au feu, enfin... Mon père chassait, il y avait, enfin, les aliments qu'on mangeait, c'était des très bonnes choses en fait. Évidemment, rien ne venait d'un magasin,
rien n'était transformé en fait.
Non, rien. C'était, et puis mon père a toujours adoré cuisiner, donc c'était, et puis ça faisait partie, c'était déjà vraiment, ça faisait partie des journées, enfin les journées s'articulaient autour des repas. C'était l'art de vivre, quoi. On cuisinait, ça sentait toujours le matin le pain grillé qui était fait dans le four à pain. L'après-midi, les petits plats qui mijotaient, les salades. Il y avait toujours une vieille radio qui grésillait. Tout au long de la journée, ça prenait des odeurs de café. Et puis ensuite, le soir, les pot-au-feu, tout ça. Enfin, c'était vraiment la nourriture, en fait. C'était notre vie, quoi.
C'était le lien de la famille, en fait.
Exactement. C'était le lien de la famille, des amis. Et ça l'est toujours aujourd'hui pour moi d'ailleurs, mais oui, c'était vraiment très important. Et nous, on s'en rendait pas tellement compte en fait, mais c'était là, donc on a grandi avec, et ce qu'on mettait dans notre bouche, c'était des produits qui avaient des vrais goûts, des vraies saveurs, et même des histoires, parce que quand on allait les chercher, ou quand on les plantait 6 mois avant, et qu'on les voyait pousser, ou quand on allait chercher des pommes, etc., ça avait plein de sens. Donc je pense que c'est né très tôt. Ensuite, mon rapport à la santé liée à l'alimentation est venu beaucoup plus tard. parce que pour moi, ça n'avait rien à voir. Toute mon enfance, c'était évidemment très, très distinct. Quand on est enfant, on ne voit pas trop le lien. Et puis, mon frère est devenu diabétique. Et aussi, bon, il s'est passé pas mal de choses, mais tout d'un coup, l'alimentation était autre chose. Il fallait faire attention. Le sucre, il fallait qu'à chaque repas, il y ait des sucres lents, qu'il y ait des légumes, des graines. Il fallait comprendre les fibres.
T'as vécu ça comme une contrainte ?
Alors, ma mère a mis, je pense, une énergie folle pour que ce ne soit pas une contrainte et nous faire croire que tout allait bien et que tout était possible encore. N'empêche que c'était beaucoup moins libre qu'avant. Et puis que lui, je me souviens du quand il était à l'hôpital, il disait, mais ça veut dire que il avait 12 ans, que dans les booms, je pourrais plus manger de bonbons. Ça veut dire que je devrais faire attention quand je fais du sport, à penser à ce que je dois manger avant, après. Et puis à se faire des piqûres aussi, d'un petit garçon qui se fait tout le temps des piqûres et tout ça. Donc, c'était pas si génial que ça. Mais ce qui était génial, c'est de voir déjà l'énergie que ma mère mettait pour nous. Et aussi le rapport à l'alimentation, qu'en fait, ça n'était pas que de la bouffe, c'était pas juste pour avoir plus faim, c'était pas juste pour se remplir l'estomac ou pour partager des moments, c'était aussi, notre santé en dépendait aussi. En tout cas, la sienne. Donc, oui, ça a quand même changé beaucoup de choses.
Et là, tu avais quel âge ?
Là, j'avais 11 ans. Je venais d'avoir 11 ans. Je me souviens bien de cet été-là. Qui était un été complètement foiré, qu'on a passé à l'hôpital. Moi, j'étais toute seule parce que mon petit frère était tout petit. Donc, mon père s'occupait de lui, ma mère était tout en hôpital et moi, j'étais complètement délaissée. C'est marrant, c'est la première fois que je parle de ça. Mais ça m'a permis de réfléchir aussi, de passer un moment avec moi-même. À cette époque-là, j'étais obsédée par mes œufs parce que je couvais des œufs, donc pas physiquement, je vous rassure, j'avais une couveuse. Alors à l'époque, on commandait sur Okapi les magazines pour enfants. J'avais plus l'âge de les lire, mais secrètement, j'adorais encore. Alors que c'était la période des Spice Girls et tout, mais moi, je lisais encore ce genre de trucs. Et j'avais découpé un coupon pour s'acheter une couveuse. Et donc, on avait envoyé un chèque et tout ça. Et j'avais reçu par la poste mon premier colis. C'était une couveuse avec une lampe. C'est une sorte de boîte, en fait. une petite boîte, un peu en carton.
Mais raconte-moi, donc t'as fait naître des poussins ?
Mais oui. Donc, dans le poulailler dans le poulailler à Grasse, j'avais piqué des œufs, quoi. Que je les ai sauvés de la poêle, en fait. Et puis, comme il y avait un coq, ils sont tous fécondés, finalement. Et j'ai couvé mes œufs. tout cet été-là. Alors, le problème, c'est qu'avec l'hôpital qui était à 5 heures de route, j'ai donc passé 5 heures à les avoir sous mes fesses en me disant pitié, pitié que ça marche. Il y en a deux qui n'ont pas marché. C'est bien parce que quelques mois après, je les ai quand même ouverts en me disant bon, faut faire quelque chose. C'est un spectacle horrible. Mais parce que les poussins avaient
développé
été coupés,
un petit peu. Ouais,
exactement. Mais sinon, j'ai eu mes poussins, quoi. J'ai couvé mes œufs et j'ai eu mes poussins.
Je n'en reviens pas dans cette histoire.
C'était
dingue.
Exceptionnel. Après, je les ai rendus gogol. Et d'ailleurs, je pense que c'est encore une fois l'alimentation. C'est marrant que ce soit la même période parce qu'en fait, je voulais faire bien. J'étais leur mère. Ils me suivaient partout. Donc, je leur faisais des pâtés pas possibles où je mettais de la levure de bière, du riz, des légumes. Enfin, je leur faisais des grosses bouillies, quoi. Et donc, je les ai amenés chez le vétérinaire. Il m'a dit, mais vous leur donnez n'importe quoi à manger. C'est pas possible, vous les avez rendus. Donc, il faut leur donner des graines. En fait, ils sont faits pour manger du grain et il faut les complémenter. Bon, bref, j'ai dû donc m'occuper.
Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, dans l'aliment, là, tu as lié plein de principes qui me semblent fondamentaux. La maternité. Le lien à la terre, c'est-à-dire que tu nous as raconté tout de suite que finalement c'est ce lien avec cette ferme au-dessus de Grasse et ce lien à la nature qui t'a conduit à observer les aliments qui poussaient, voilà, donc ce lien à celle qu'on appelle terre-mère, mais qui est voilà, de là d'où on vient. Et en même temps, le lien à la maternité, puisque tu as parlé beaucoup de ta maman, qui a fait en sorte que ce soit joyeux, même quand c'était dans la contrainte. Et toi-même, tu as exploré cette maternité très tôt, en fait, avant même de connaître la puberté, parce qu'à 11 ans, tu étais toute petite, tu étais encore une petite fille. Mais tu as vu ce que ça pouvait donner, en fait, de nourrir mal quelqu'un, même si c'est un être vivant qui est différent d'un être humain, mais ça reste un vivant. tu as vu que tu avais le pouvoir de rendre malade et donc de soigner.
C'est incroyable, j'avais jamais fait le lien avec ça, mais c'est vrai, en plus c'est
donc
exactement la même époque.
Vous me devez 80 euros. Hein,
très bien madame.
Non mais je trouve ça vraiment passionnant parce que, donc tu vivais pas que dans cette ferme, tu vivais à moitié à Paris, puis j'imagine que vous alliez très régulièrement en fait dans ce lieu de famille. Donc du coup, moi j'ai toujours été frappée, bien avant même quand tu commençais tes études de naturopathe, j'étais frappée par ton savoir sur les plantes. Donc ça, c'est quelque chose que tu as acquis au fur et à mesure de ton éducation.
En fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un grand-père, le père de mon père, qui était très 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 savant sur tout en fait. Comme c'est rarissime ce genre de personne. Il connaissait déjà les animaux par cœur. Les plantes, la nature, les étoiles, les maths, la poésie, les langues, il parlait 7 langues. Enfin, c'était un petit monsieur très barbu, tout petit, avec sa canne, qui marchait 7 heures par jour et tout ça, qui allait chercher le journal à pied à Grasse. Enfin, il était assez exceptionnel. Il nous aidait dicté tous les jours. On était dyslexiques. Enfin, bref, nul en orthographe et tout ça, le pauvre. Mais par contre, une promenade avec lui, c'était exceptionnel parce qu'il nous disait voilà, ça c'est le millepertuis, le pertuis, lui c'est les fenêtres, c'est et donc et regardez, c'est que ça fait comme plein de petites fenêtres, ça c'est la belladonna parce que ça ressemble à des yeux de femme italienne, alors la belladonna, alors et puis en fait il nous racontait tout et il ramassait des racines, des graines, des plantes, et je me souviens que dans sa chambre il tirait des fils de pêche, en fait il accrochait tout pour faire tout sécher. Je me souviens notamment des odeurs des polypodes que j'ai plus mangé depuis. Enfin, qui faisait en infusion, qui était une sorte de racine, un peu comme de fougère. Et j'adorais en retrouver, parce que c'était lui, quoi. Puis tout avait tout avait un remède. Mmh. Ah, t'as mal à la tête. Puis le remède le plus courant était un bouillon et au lit, quoi. Et
ouais.
En fait,
et ça marchait.
C'est tellement logique.
Ouais. Et avant d'entamer ces études et de te mettre à cuisiner, je crois que tu as aussi beaucoup voyagé, parce que un jour, je t'ai surprise en train de parler avec la gardienne de ton immeuble en portugais. Et j'étais, ah non mais attends, elle sait faire combien de trucs, Angèle ? Tu parlais couramment en fait, donc tu as habité au Brésil ?
J'ai habité au Brésil, j'ai passé mon bac à San Francisco, même si j'ai un anglais, un accent pourri. Et puis je suis aussi allée vivre en Australie, j'ai rejoint mon frère qui faisait ses études là-bas. Et puis, j'adore voyager, donc j'ai beaucoup voyagé, ouais.
Et donc, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, ça, c'est le métier que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie d'en faire quelque chose, ou tout s'est passé un peu malgré une intention bien déclarée ?
Non, je ne me suis jamais dit, voilà le métier que j'aimerais faire, voilà la vie que j'aimerais avoir. J'ai juste mis des intentions dans l'énergie que j'avais envie de ressentir et les gens avec qui j'avais envie d'être entourée. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est rigolo, j'avais fait mon stage en 4e, je ne sais plus, assez petite, chez Philippe Star, qui est un grand copain de mes parents. Et il m'avait dit, et donc je voulais être médecin à l'époque, il m'avait dit, mais réfléchis bien à qui tu veux, enfin, avec qui tu veux parler, avec qui tu veux déjeuner, tu veux être assis à côté de qui, tu veux travailler dans quel endroit, ça va de quoi, ta vie, en fait. Pense à ton quotidien. Et pense plutôt à ça plutôt qu'au métier que tu aimerais faire. C'est marrant parce que ça m'avait travaillé. Je me suis dit, mais dis donc, c'est génial, le milieu hospitalier et tout. En fait, je m'étais dit, mais non. En fait, finalement, moi, ce que j'aime, c'est quelque chose de plus naturel, de plus dans les mains dans le cambouis, de rencontrer des gens et tout. Donc, j'ai jamais rien formulé, mais je pense que j'ai mis de l'énergie dans exactement la vie que j'ai aujourd'hui.
C'est incroyable, en fait, je trouve, comme conseil de dire ça, en fait, c'est un stage, je crois que ça se fait en 3e, donc on a 14 ans. Et en fait, plutôt que de dire qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est avec qui tu as envie d'être. Quel va être l'environnement dans lequel tu veux progresser. Et finalement, moi, je me rends compte que j'ai pas beaucoup changé d'environnement, même si je fais des choses très différentes, mais ce que je voulais, c'était être nourrie par des gens créateurs. Et aujourd'hui, même si j'enseigne le yoga, je suis toujours entourée en fait par des gens qui créent, par des gens qui sont moteurs en fait. Et c'est pas forcément des artistes, mais c'est juste cette espèce de créativité qui me fascinait aussi quand j'étais journaliste. Et je me dis bah oui, c'est vraiment intéressant en fait de livrer à un enfant ou à un adolescent ce conseil de finalement avec qui t'as envie de passer tes déjeuners. C'est tellement important, quoi. Donc, en tout cas, j'imagine que tu as toujours un peu cuisiné. Et puis, comment ça s'est passé pour que je découvre tes cheesecakes dans une épicerie?
Alors, oui, j'ai toujours cuisiné. J'ai toujours aimé manger. Je trouve que c'est quand même très lié. Et quand j'étais en médecine, parce qu'après, j'ai commencé des études de médecine, j'ai voulu investiguer un peu plus loin parce que quand même, je me sentais un peu en décalage avec les autres élèves qui étaient plus jeunes, qui n'avaient pas voyagé, qui étaient meilleurs que moi, qui étaient très matheux, qui travaillaient comme des dingues et surtout qui avaient une... peut-être que j'ai eu une mauvaise... pas de chance hein, dans cette classe, dans cet amphithéâtre, mais je me souviens du rapport entre nous qui était très malsain en fait. Où on se mettait, enfin tout le monde se mettait des bâtons dans les roues. Si t'allais aux toilettes pendant le cours, tes fiches disparaissaient. Il y avait des laxatifs dans les cafés pendant les examens, enfin ce genre de trucs. Ouais, classique, très classique.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah bah oui, dans les boîtes, dans les machines à café.
Parce qu'en fait, c'est une compétition,
c'est
en fait.
C'est un concours. Ouais. Et je me souviens, je me souviens de me sentir pas tellement à ma place, mais d'avoir quand même cette envie de soigner, de faire du bien aux autres, etc. Et puis ce fantasme d'être médecin aussi. Et donc, c'était suite à un cours sur la biocellulaire où on parlait de la façon que la cellule a de se régénérer, etc. Et le prof a évoqué le sport. Le muscle étant stressé, il a besoin de calories, donc il va chercher dans ses propres déchets. Et le jeûne, le fait de ne pas manger, donc le corps est stressé. Donc, il faut vite trouver de l'énergie ailleurs. Et en fait, il va en trouver dans lui-même et donc s'auto-nettoyer. Et donc, ça m'a quand même vraiment interpellée, cette histoire, parce que tout d'un coup, il y avait un truc qui résonnait avec moi, mon amour pour la nature, pour le simple, le gratuit aussi, enfin, tout ça. Et loin des formules de laboratoire, de médicaments moléculaires et tout ça. Un truc très compréhensible, en fait. Donc, je suis allée voir le prof à la fin du cours. Et il m'a tout de suite dit, alors, attends, tu laisses tomber direct là, dans les 8 prochaines années. On en parle, les 5 prochaines années, on n'en parlera plus. Je te l'évoque parce que c'est le cours, mais lâche l'affaire. Fallait pas me dire ça. Ça m'a complètement révoltée. Donc, je suis allée jeûner. Donc,
c'était ta première expérience de jeûne.
C'était ma première expérience de jeûne. Enfin, quand j'étais en Australie, on faisait ce qu'on appelait le Green Tea Monday. On ne buvait que du thé le lundi. Et souvent, on avait passé des gros week-ends, donc ça nous faisait du bien. Et j'étais très étonnée déjà par l'énergie qu'on avait sans manger. Mais là, je devais rester une semaine, ce qui est déjà énorme quand on est en médecine, de s'offrir 6 jours. Mais en fait, je suis restée plus de 2 semaines, 20 jours. Et c'était une vraie révélation, en fait. C'est pas pour rien que dans toutes les religions au monde, on retrouve des jeûnes conseillés, quoi. Le jeûne d'Esther, le ramadan, le carême, etc. Parce que, donc, on peut évidemment avoir un éveil spirituel si c'est ce qu'on recherche, mais de toute façon, on a une clarté d'esprit parce qu'en fait, notre corps n'est pas en train de mettre son énergie à digérer. On passe 8 heures par jour en train de digérer. Et donc là, on a toute notre énergie pour non seulement s'auto-nettoyer, mais aussi penser, réfléchir, avoir les idées claires. Et c'était. Et je me souviens. De m'être dit plein de trucs, j'ai vu plein de choses, plein d'images de ma vie, plein de choses que je voulais. Et d'ailleurs, en rentrant, quand j'avais un examen de médecine, je me souviens d'avoir un petit peu fait rapidement l'examen et d'avoir dessiné des packagings d'épicerie, etc. Chose que j'ai lancée il y a 5 mois, donc c'est 15 ans après, quoi. Mais dans ma tête, c'était très clair, c'était ça, je touchais à quelque chose qui me ressemblait vraiment. Surtout parce que j'étais encadrée par cette naturopathe, dont je connaissais pas du tout la naturopathie. En fait, c'est une méthode de prévention naturelle, comme beaucoup de médecine traditionnelle. C'est un petit peu la nôtre. Et tout était tellement logique, sa façon, à cette naturopathe qui s'appelle Céleste Candido, de parler du stress, des peurs. En fait, si on n'est pas stressé parce qu'on mange pas, pourquoi stresser parce qu'on manque d'argent ou parce qu'on peut louper son train ou parce que les enfants vont être en retard à l'école? En fait, tout ça est inutile. Et les promenades, souvent on devait pas parler pendant les promenades aussi. J'ai expérimenté ça avec toi aussi, Lily, c'est d'une puissance folle. Marcher, respirer, observer sans partir dans tous les sens, c'est tellement fort. Et cette naturopathe faisait des petites conférences tous les soirs sur la santé, les huiles crues, la digestion, enfin tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ça me parle tellement, c'est tellement ça.
Et tu avais quel âge?
J'avais 19 ans, c'était il y a 15 ans. Et à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup encore en France,
De la
de la
naturopathie, bien
naturopathie.
sûr. Ben, en fait, tu as eu une chance folle et en même temps, c'est pas vraiment de la chance. Pour moi, c'est toujours une trajectoire énergétique qu'on attire à soi la bonne personne au bon moment. Mais au sujet du jeûne, comme j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont nous écouter.
C'est sûr, Lily.
Je voudrais quand même juste mettre un tout petit cadre parce que justement, tu as été bien accompagnée. Et aujourd'hui, comme c'est un mot qui est devenu à la mode et qu'on n'y met pas forcément la notion spirituelle et vraiment le fond, et en fait, je pense qu'au-delà du cadre des connaissances, probablement qu'elle cadrait aussi énergétiquement. Tu vois, et c'est essentiel aujourd'hui, en fait, je le rappelle, parce que, en fait, avec la mode du jeûne intermittent qui est proposé à tout le monde, avec des applications, etc., on perd vraiment cette notion, en fait, de spiritualité. Bien sûr, ça peut correspondre à plein de gens, mais parfois, c'est un régime déguisé pour beaucoup. Et chez des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, ça peut être catastrophique. Pareil, quand on connaît pas très bien son état de santé général, avant de commencer. Donc toi, tu étais en bonne santé, tu avais toujours été bien nourri, mais quelqu'un qui a une maladie du foie, qui ne le sait pas, ou bien qui métabolise pas très bien, ou qui a un problème cardiovasculaire sans le savoir, même jeune, peut connaître des troubles assez graves. Donc pour moi, c'est important juste de rappeler que le jeûne, c'est une technique spirituelle, hein. C'est pas une technique pour maigrir, c'est une technique de soins, de guérison en fait profonde. Et du coup, ça se fait avec un cadre, pas n'importe comment, et avec quelqu'un qui sait justement sentir si c'est OK ou pas. Et toutes les méthodes qui sont proposées en ligne, par exemple de faire 21 jours en ligne, moi personnellement, je suis contre. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre dans la nature, avec le soutien de la terre, parce que justement la terre va nous nourrir autrement, et le silence va nous nourrir aussi. Voilà, je sais pas si tu es d'accord avec
Bah, je
moi.
suis très, t'as raison d'évoquer ça. Merci beaucoup. C'est vrai que j'en parlais comme ça rapidement. Mais en fait, le cadre est très, très, très important et pas n'importe lequel aussi. Il faut vraiment trouver celui qui nous correspond. Mais le fait d'être évidemment dans la nature, d'avoir autre chose, de marcher, c'est très important, de respirer, de faire du yoga. Donc là, chaque matin, on mettait une intention. Le groupe aussi est crucial. Et le corps est déjà en stress quand on jeûne. Donc c'est très très important de n'avoir aucun stress extérieur. Donc continuer à être dans la ville, à travailler, à être sur nos téléphones, etc., c'est une aberration. Et c'est vrai que souvent ce sont des régimes déguisés. D'ailleurs, les jeûnes sont complètement contre-indiqués pour les personnes qui ont des problèmes alimentaires.
Merci de le rappeler. Du coup, là, tu as 19 ans, tu fais cette expérience qui est en fait une expérience d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, quoi, puisque tu as même une vision avec ces packagings d'épicerie que tu vas finalement, auxquels tu vas donner vie 10 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment typique de l'éveil de conscience. Et on reçoit des messages, on ne sait pas très bien quoi en faire au moment où on les reçoit, mais il y a un moment où on va avoir the big map, la grande carte qui va nous permettre de retrouver en fait le sens. Et là, du coup, quel est ton engagement en fait? Comment est-ce que tu vas honorer ce que tu as découvert sur toi à travers cette expérience?
Alors déjà, j'ai tellement adoré, je pense que ça se voyait, j'étais dans une joie comme j'avais pas été. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais un peu éloignée de moi-même ces dernières années, particulièrement pendant l'adolescence, où tout le monde fume des clopes et des pétards, et on va au McDo, et on sort le soir très tard, et tout ça, surtout dans ma génération, parce que maintenant c'est très cool d'être healthy, mais à l'époque, pas du tout. Et en fait, je me rends compte que j'étais très très loin en fait de la nature, de moi, de ce qui me plaisait vraiment. Mais je voulais vraiment appartenir au groupe, être comme tout le monde. Et là, donc, je me suis vraiment, enfin, je me le suis pas formulé, mais ce qui est certain, c'est que cette expérience-là, j'allais pas lâcher. J'avais retrouvé quelque chose. Je voyais des gens qui étaient normaux, qui étaient beaux, qui étaient sains et qui avaient comme moi cet amour pour la nature et tout ça. Mais en fait, quand je suis rentrée, il s'est passé un truc de dingue, en fait. C'est que je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je savais que j'avais laissé une partie de mon cœur là-bas, dans cet hôtel à Bénodet. Et avec cette naturopathe qui a été comme une autre mère pour moi, quoi. Vraiment une rencontre exceptionnelle. Et elle m'appelle, mais 10 jours après, en me disant, écoute, je te demande ça alors que t'as aucune, peut-être envie, ni compétence, enfin, j'en sais rien. Mais là, on a un stage avec beaucoup de monde, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu es d'accord? Je te loge, je te nourris, t'assistes à toutes les conférences, tu m'aides gracieusement. Et en fait, on ne pouvait pas me proposer un plus beau cadeau à ce moment-là dans ma vie. J'étais mais folle de joie d'accompagner cette femme qui était comme un guide, qui parlait un langage qui me parlait vraiment à moi profondément. Donc, j'ai dit mais bien sûr, et j'ai commencé à l'aider à fond tout le temps, donc à lâcher complètement d'ailleurs la médecine à côté. Et donc, j'étais ses petites mains en fait. Je préparais les salles de yoga, je faisais les courses dans les magasins bio, j'accueillais les gens, je préparais tout. En fait, je faisais tout ce dont elle avait besoin. Et puis surtout, je faisais la cuisine parce que il y avait certes le bouillon pour les jeûneurs à faire tous les jours, mais parce qu'on consomme des bouillons pour pas perdre nos minéraux quand on jeûne. Je faisais la cuisine pour les gens qui étaient en descente alimentaire, en détox ou en reprise alimentaire, parce que évidemment, le jeûne, tu le rappelais tout à l'heure, ça doit être cadré. Et ça se fait pas comme ça. Ça se prépare. On triple la période de jeûne en préparation, entre la descente et la reprise, par exemple. Enfin, déjà. Et donc, je me suis mise à faire cette cuisine et elle m'a dit, mais par contre, attends, je te préviens, faut que ce soit végétal, faut que ce soit local, il faut que ce soit sans gluten, il faut que ce soit sans lactose, il faut que ce soit à 80% cru. J'étais là, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, c'est génial parce que de la contrainte, née vraiment la créativité. J'avais tellement de contraintes qu'en fait, bah, ma carotte, il fallait que je trouve un moyen. Mais j'allais la faire déshydratée, en houmous, évidemment en soupe, en crème, en velouté, en chips. En fait, tout d'un coup, j'avais un nouvel univers qui s'offrait à moi. Et je me suis beaucoup intéressée à toute cette cuisine-là. À l'époque, la personne qui faisait du cru en Europe, c'était Paul Grégoire en Belgique. Je n'entends plus trop parler de lui, mais il m'a beaucoup inspirée parce qu'il écrivait des livres sur le cru et tout. Donc j'ai directement acheté un déshydrateur Excalibur de 2 mètres carrés qui prend une place folle, qui fait un boucan d'enfer, ça sent l'oignon quand on le lance pendant 4 jours. Parce qu'évidemment, le cru, rien ne dure moins de 12 heures. Bref, grâce à elle, en fait, j'ai eu accès à toute cette... À tout cet univers de cuisine vraiment.
Mais en fait, tu avais appris en regardant tes parents, peut-être tes grands-parents, mais tu n'avais pas pris de cours de cuisine, tu n'as pas fait de CAP de cuisine ou d'école d'hôtellerie, non, rien de
Non,
ça.
rien.
Ok.
Quand non, j'ai jamais. C'est d'ailleurs mon défaut et ma qualité aussi, parce que je suis pas du tout cloisonnée dans des règles. J'ai une liberté folle. Je me lance dans tout. Rien ne me fait peur. Et en même temps, il y a plein de techniques. Je sais pas faire un soufflé, je sais mal utiliser les chalumeaux. Enfin, il y a plein de choses très techniques que je sais pas faire.
Mais moi, c'est justement ce que j'aime, c'est que j'ai déjà cuisiné avec toi et que, en fait, il y a un côté bon sens et aussi tu cherches la solution la plus simple, en fait, et t'as pas envie que ça prenne des heures. Tu peux consacrer des heures si tu le décides, mais pour la cuisine de tous les jours, il y a quelque chose vraiment de très convivial aussi dans la façon de faire.
De très simple et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime tellement écrire des livres de cuisine parce que ce qui me plaît c'est surtout de transmettre ça. Je ne suis pas du tout un grand chef, je n'ai pas l'intention de gagner des étoiles ou d'être dans mon restaurant de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures du mat. Mais par contre, la cuisine de tous les jours pour les gens qui travaillent, les mères de famille, les hommes sportifs, enfin pour tout le monde, que ce soit très simple et pouvoir transmettre des petites clés, ça j'adore. Ça c'est si je peux avoir un rôle, et que ce soit celui-là, ça me va.
Du coup, en rentrant donc de ce moment où tu as accompagné, découvert des nouvelles techniques, appris sur le cru, etc., là, tu t'es mis à cuisiner pourquoi? Pour les copains?
Non, en fait, c'est assez. C'est rigolo comme tout. C'est quelque chose que tu dis souvent, comme on attire en fait les choses. Et c'est dur à concevoir ce concept pour les gens, même pour moi, quand je t'entends dire ça parfois, faites confiance. Diffuser, rayonner la joie, ça arrivera si vous. C'est très dur de se dire, ah non, mais je vais pas, machin. Mais en fait, quand je pense a posteriori à mon
À ton
histoire,
parcours, ouais.
c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, il se trouve que dans ces stages, il y avait des actrices, des mannequins, des producteurs, des réalisateurs, des gens qui avaient des vies mondaines très, très chargées, parisiennes, à base de cocktails, de coupes de champagne, de petits fours et tout ça. Et qui venaient jeûner, en fait, pour se faire un reset dans leur poids et dans leur habitude. Mais dès qu'ils rentraient à Paris, ils étaient repartis dans leur tourbillon. Et Céleste Candido, donc la naturopathe, n'arrêtait pas de leur dire mais ne venez plus jeûner, mais ayez une hygiène de vie saine au quotidien. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Enfin, c'est le plus important. Et donc, en me voyant faire un peu, j'étais la petite dans le coin qui faisait toujours la popote et tout. Ils ont commencé, enfin, on est un qui a commencé à me dire, est-ce que ça te dirait de me remplir mon frigo pour ma reprise alimentaire? Parce que je sais pas faire, je sais pas expliquer aux gens qui travaillent pour moi. Il y a trop de règles, c'est trop compliqué, donc tu me fais ma reprise jour par jour. Alors, j'ai commencé à remplir les frigos lundi, mardi, mercredi, je venais 2, 3 fois par
Le
semaine.
rêve, hein. Oh
C'était
là là,
génial.
j'aimerais trop qu'on fasse ça pour moi.
Et puis en fait le mot s'est passé, et puis finalement, quand ils ont commencé à faire des dîners, ils voulaient toujours être un peu en détox, ou c'était des dîners très vite après la reprise. Ben, c'est moi qu'ils appelaient, etc. Et donc, j'ai commencé, mais complètement par hasard, à être chef à domicile, enfin cuisinière à domicile, pour les gens, pour des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc, en plus, j'avais des moyens illimités, quoi. Je pouvais choisir les produits que je voulais, je pouvais me permettre toutes les excentricités que je voulais. J'avais le budget, j'avais les lieux, enfin, c'était sublime. J'ai commencé à cuisiner pour des gens que j'adorais, pour France Gall, j'écoutais
Oh
sa
là
musique depuis toujours, je suis une
là,
grande
la
fan et tout.
chance. Oui,
Ouais,
parce que
tout
ce que
d'un
tout le monde
coup.
ne sait pas, c'est que Angèle, quand on va dans ses cuisines, bon d'abord ça rigole dans tous les sens, mais ça chante, elle chante. C'est-à-dire que les petits plats qu'on trouve et même les préparations qu'elle vend en épicerie, ils ont tous été bercés par des reprises de Céline Dion, de France Gall et autres. Hein.
C'est pas Mozart, mais c'est sûr que ça, y a de la musique. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu comme ça. Et ma mère, encore une fois, c'est marrant parce que ma mère, je la critique beaucoup et tout ça. Mais alors, en fait, dans ma vie, qu'est-ce qu'elle m'a aiguillée finalement? Donc, ma mère, qui est sûre que ses enfants sont les meilleurs au monde, qui a une boutique rue du Bac, a vu cette petite boutique que tu connaissais, qui avait ouvert Modilnik, qui s'appelait l'épicerie générale, rue de Verneuil, donc juste à côté de chez elle. Elle a commencé à acheter tous les trucs. Cette boutique était géniale parce qu'elle faisait vraiment du local, du 100% français et tout. Mais elle avait rien à manger en traiteur immédiatement. Donc elle a commencé à, donc ma mère a commencé à dire à cette femme, mais ma fille est un grand chef exceptionnel. Elle fait la cuisine pour tout le monde. Comment? Vous ne connaissez pas? Mais voilà sa carte. Elle écrivait mon nom sur un bout de papier. Personne n'était dupe. Bref, mais bon, cette femme un peu excentrique, rigolote et folle. Cette Maude, donc la
Une
responsable,
amie à nous, à toutes les deux, ouais.
exactement, dit, je sais pas, elle peut peut-être me filer quelques cookies, je verrai. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et donc, ma vie professionnelle, officielle, a commencé comme ça.
Donc moi, j'habitais pas très loin, dans ce quartier du 7e arrondissement. Et Maude, en fait, a fait partie des gens qui m'ont éduquée, en fait, aux bons produits. Parce que moi, j'avoue que contrairement à toi, j'ai pas du tout grandi dans un environnement où on faisait attention aux bons produits. Bon, ça, à chaque fois, ça fait beaucoup de peine à ma mère quand elle entend ça. Donc, merci maman, il y a d'autres choses que tu as apportées dans ma vie, mais c'est vrai que elle adorait les très bonnes pâtisseries, elle adorait et elle adore toujours en fait les très très bons produits, mais c'était pas forcément le quotidien en fait. Et il n'y avait pas cette culture du légume qu'on achète, etc. Et c'est vrai que c'est arrivé plus tard, moi, quand j'ai eu un enfant et que j'ai commencé à sortir du les maternelles pour diversifier l'alimentation. Là, j'ai commencé à me poser des questions, d'abord pour elle, et puis ensuite en me voyant faire à manger différemment pour elle que pour moi. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un moment où j'achetais des légumes bio pour elle, mais où je continuais à acheter des légumes pas bio et plein de pesticides pour moi, et je voyais pas où était le problème. Mais je me disais, c'est cher. Tu vois, il y avait un truc de c'est cher, donc je veux pas mettre trop d'argent non plus là-dedans. Pour elle, elle mérite le meilleur, mais moi, c'est pas très grave si je continue à manger des légumes dont je sais pas trop. Et puis, j'avais aussi plein de doutes, c'est-à-dire que je me méfiais des labels, je me méfiais de tout ce qui était dit. J'avais un côté. Ouais, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Aujourd'hui, on a peur de tout. Moi, je voulais pas nourrir la peur non plus. Mais finalement, ma fille m'a poussée à me questionner sur mon alimentation. Et Maud est arrivée avec cette épicerie dans mon quartier à peu près au même moment. Et en fait, elle m'ouvrait, pareil, elle ouvrait de nouvelles portes en me racontant l'huile d'olive qu'elle allait chercher dans une ferme qu'elle adorait. Et elle me racontait des histoires. Et en fait, chaque produit devenait une histoire, y compris tes petites cheesecakes avec des fleurs comestibles. Et moi, j'avais jamais pensé qu'on pouvait mettre des fleurs comestibles sur des pâtisseries, ou bien j'avais déjà vu des capucines dans une salade dans un restaurant chic, mais c'est vrai que c'était pas... Et pourtant, je suis l'arrière-petite-fille d'un agriculteur, et quand j'étais toute petite, mon arrière-grand-père, je le voyais faire son potager, et il a très bien réussi sa vie en tant qu'agriculteur dans les Yvelines. Et j'ai un oncle qui était arboriculteur, donc j'ai quand même vu des gens travailler la terre et vivre de la terre. Mais c'est comme si en fait l'intellect avait pris le dessus en fait dans la génération qui suivait, de se dire c'est ça qu'on va valoriser. Et finalement, être riche, c'est pouvoir s'acheter ce qu'on veut dans un supermarché, pouvoir acheter les promos en tête de gondole. C'est ça en fait, la qualité, c'est la quantité. Donc toutes les deux en fait, sans le savoir, vous m'avez vraiment éduquée. Et puis après, bah du coup, j'imagine que la suite, ça a été de faire du catering, donc du traiteur, des services de traiteur pour les événements. Quand est-ce que tu as ouvert ton premier lieu ?
Je suis nulle dans les dates. Je pense que c'était en 2000. La première fois que j'ai fait un gros truc, c'était la Wheel of Green, et c'était en 2011. Et je pense qu'en 2013 ou en 2014, j'ai ouvert mon premier lieu. J'ai écrit mon premier livre.
D'accord.
C'était à peu près au même moment.
Donc là, ça fait un cycle de 7 ans, en fait, à peu près. Moi, je suis très attentive au cycle de 7 ans. Donc aujourd'hui, 7 ans plus tard, est-ce que tu peux nous parler, en fait, de tes engagements ? C'est-à-dire que dans la cuisine que tu occupes, qui va bientôt s'agrandir, dans ton laboratoire dans le 14e arrondissement, il y a un potager. Tu te sers énormément de ce qu'il y a dans ton potager pour nourrir ta créativité, ta cuisine, tes recettes. Tu as une grande équipe. Est-ce que tu peux nous parler de voilà, comment tu travailles aujourd'hui et comment tu continues à faire vivre cette passion de petite, quoi ?
Alors déjà, je pense que, en fait, sans le savoir, Lily, tu m'aides énormément. Parce que c'est marrant, moi, je pensais pas en cycle de 7 ans, je pensais en enfant. Chaque enfant, en fait, me fait aller plus loin aussi dans mon engagement, etc. Et là, le dernier bébé que j'ai eu, bon, j'en ai pas eu 30 hein, non plus, mais ma petite fille est née, j'ai recommencé à travailler comme une dingue, et il y a eu le confinement. Et il y a eu toi, et il y a eu le Kundalini. Donc, en fait, tout d'un coup, il y a eu un vrai éveil spirituel. Et quelle chance, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point j'étais dans un tourbillon frénétique de trucs à gérer, de machins, de trucs à payer, de RH à gérer. Enfin,
t'as pas mal d'employés, en fait, aujourd'hui.
Oui, j'ai
pas
mal d'employés.
Une grande équipe, quoi.
Et pour moi, c'est le plus important, parce que c'est le plus dur et c'est le plus beau. Parce que c'est tellement dur, en fait, de satisfaire tout le monde. Et en même temps, c'est tellement extraordinaire de pouvoir main dans la main travailler avec des gens. Donc il y a quelque chose de très très important que ces dernières années, ça fait 2 ans donc, presque, hein, 1 an et demi, m'a apporté, c'est l'envie mais aussi l'urgence de partager avec eux et aussi avec mon entourage, etc., mais particulièrement avec les gens qui travaillent avec moi, ma vision des choses et mon engagement et mes envies et pourquoi on fait ça tous ensemble. Pourquoi ? Quel est le but, en fait ? Est-ce que c'est d'avoir un salaire tous les mois ? Pas du tout, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est quelque chose que j'ai, que je commence à comprendre tout juste, en fait, cette nourriture qui n'est pas que dans l'assiette. Être nourri autrement, tu parlais de ces histoires que chaque petit produit te racontait, qui te nourrissait aussi, parce que c'est vrai qu'on mange pas du tout la même chose. Quelque chose dont on connaît l'histoire, un produit qu'on a glané, ou dont on connaît le producteur. Je me souviens qu'avant, quand un de mes employés était pas satisfait, ça me minait, je n'endormais pas la nuit, je me disais qu'est-ce que je fais mal, etc. Maintenant, je sais que moi, je dois être complètement en accord avec moi-même et être et qu'on parle de cœur à cœur. Et vraiment laisser l'ego, enfin tout ce qui peut évidemment nous éloigner de ça de côté et pas prendre les choses mal, pas les prendre personnellement. Donc ça c'est un vrai truc qui est très nouveau pour moi parce que ça touche pas du tout à mes actions quotidiennes, c'est beaucoup plus profond. Donc déjà leur partager ça avec eux. Après il y a évidemment les engagements de fournisseurs, de traitement des déchets qui est très important pour nous, ce qui était dur à mettre en place parce qu'en fait à Paris ça coûte encore très cher d'avoir des composts par exemple. Donc nous on pouvait pas tout faire dans le jardin parce qu'on a beaucoup trop de quantité. Donc on fait appel à un organisme qui s'appelle Molino, qui nous apporte des poubelles à compost, et donc tout ce qui est organique est recyclé et devient du terreau. Donc ça fait partie des choses, des petits pas en fait, qui me nourrissent vraiment et sur lesquels on communique pas spécialement, etc. Mais en fait, c'est pas le but. Le but, c'est que chacun d'entre nous, quand on coupe un légume et qu'on sait que les épluchures, en fait, vont permettre de faire pousser des petites plantes quelque part, bah, rien que ça, c'est un peu de bonheur, quoi.
Oui, bien sûr. Et alors, du coup, tu as découvert l'outil que je transmets, le Kundalini Yoga, donc à travers les méditations que j'ai proposées sur Instagram donc, pendant le premier confinement en 2020. Et j'ai l'impression que tu es quand même vraiment tombée dans la marmite, quoi. C'est-à-dire que ça t'a vraiment parlé.
Mais je pense comme énormément de personnes qui nous écoutent, c'est dingue et je suis même moi-même complètement surprise et je me demandais si j'avais pas un truc hormonal ou je sais pas quoi parce que c'était vraiment pas naturel pour moi d'adhérer à un truc comme ça. Pas le côté spirituel, mais le côté physique. C'était très et la régularité, c'est un truc que je n'ai jamais eu et dont tu parles très très bien dans ton livre d'ailleurs, que toi non plus n'avais pas du tout. C'est cette régularité avec cet amour pour en fait, le Kundalini, c'est pas ni un sport, ni un yoga, enfin, ni une pratique spirituelle, c'est ni un cours de chant, c'est tout et c'est plus, beaucoup plus. Et donc, je me souviens, Lily, d'ailleurs, que la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Parce que je te voyais parler tes cours de Kundalini en story et tout ça, parce que Lily, je te suis depuis longtemps, on se connaît depuis bien longtemps. Mais je me disais, bon, elle fait du yoga, elle devient prof de yoga, cool pour elle, c'est génial, elle va être en pleine forme. Mais là, je voyais chanter, lever des bras, faire des trucs bizarres et tout. Je me disais, oh! Et je me souviens que la première fois, j'étais dans la cuisine, je regardais les stories et tout ça. Et là, je me dis, merde, je veux pas quitter son live parce que ça va lui faire une vue en moins. C'était au tout début du confinement, donc je le laisse sur le côté. Mais c'est vraiment par amour pour elle, quoi. Et donc je faisais la cuisine et tout, j'étais là, oh, elle chante, oh là là, oh non, c'est pas possible, oh non. Et là, je suis quand même partie dans le truc, genre, Sad City. Et je dis, ah ouais, bon, ah ouais, c'est marrant. En fait, ça m'a fait du bien de chanter et tout. Et le lendemain, donc au début, c'était un peu par solidarité pour toi. Je crois que très vite, c'est pas que j'ai adhéré, c'est qu'en fait, je réglais ma journée par rapport à ça. Parce que franchement, 18, 19 heures, quand t'as deux enfants de moins de 2 ans, c'est le pire moment.
C'est le dîner,
le bain, le coucher, tout en même temps. Puis c'est le moment où ils décident de faire caca. Enfin, c'est le pire moment. Mais là, je gérais tout pour que je puisse me dégager ce moment. Donc, j'ai fait la moitié, enfin, les trois quarts de tes cours en train d'allaiter. Mais je les faisais, je trouvais ce moment pour moi et ça m'a tellement fait de bien, tellement apporté. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, hein, qui t'ont suivi et qui avaient rien à voir avec ça à la base. Et donc ça m'a apporté, en fait, je pourrais même pas te dire parce que je pense que ma vie entière, mon couple, ma maison, mes enfants, ma relation avec mon équipe, ma relation à la nourriture, ça m'a fait grandir. Donc, c'est énorme.
merci pour ce que tu es en train de me, enfin, de ce partage. Je t'avoue que tu vois ce regard un peu dans le jugement. Eh bien, moi aussi, je l'ai toujours un peu. Hein. En fait, je l'ai sur moi. Il y a toujours une partie de moi qui observe et qui se dit non. n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais osé proposer des cours en ligne avant, alors que certaines élèves me le réclamaient. Et qu'il aura fallu vraiment être pressurisée par un confinement pour me dire « bon, je m'en fous, j'y vais » parce que j'avais vraiment l'urgence d'abord de me faire du bien. C'est-à-dire que je me disais « j'ai besoin de me retrouver avec mes élèves » et j'avais entre 100 et 150 élèves qui étaient régulièrement avec moi chaque semaine en cours. Et du coup, me dire « on n'a plus d'espace pour pratiquer, on ne peut plus sortir de chez nous, donc il faut qu'on se trouve cet espace. » Mais je m'attendais à ce que ça reste très confidentiel. Ça m'arrangeait en fait qu'on soit qu'une centaine. J'imaginais déjà les journalistes avec lesquels j'avais travaillé qui eux aussi se disaient elle fait du yoga, mais elle fait genre des postures acrobatiques et voilà. Mais là d'un seul coup j'étais dévoilée, j'étais démasquée. On allait voir que oui il y avait des postures, que oui c'était physique, mais qu'il y avait quand même des chants bizarres, des postures étranges, des respirations où des fois on tire la langue et où on a l'air parfaitement ridicule. Et j'ai traversé en fait cette peur d'avoir l'air ridicule parce qu'il fallait que je me fasse du bien et que c'était l'urgence. Et je suis hyper heureuse d'avoir écouté mon intuition parce qu'évidemment ça m'a menée à vivre cette expérience avec vous. Mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, il y a la fille d'une femme que j'ai bien connue et qui était dans un milieu journalistique qui a croisé le fils d'une copine à moi et qui lui a dit... tu vois, ils se parlent de leur mère, ils se parlent des gens qu'ils connaissent et ils se rendent compte qu'ils ont une personne en commun, à savoir moi. Et la fille dit au garçon « Non mais elle a complètement pété les plombs. Enfin, elle se ridiculise sur les réseaux sociaux, c'est gênant, c'est vraiment gênant en parlant de moi. » Et j'étais pas du tout triste parce que je veux dire, c'est normal. Bon, c'est le discours de sa mère, mais c'est aussi son discours à elle de « je flippe, quoi, c'est quand même un peu bizarre. » Et finalement... je comprends très bien ça et j'ai beaucoup de compassion en fait pour cette partie-là de moi et cette partie-là des autres qui jugent parce qu'il a fallu que je traverse ça pour pouvoir aller vraiment récolter tous les bénéfices de cette pratique. Donc ça, c'est assez merveilleux. On vit une période de grands changements et qui peut paraître par moments très angoissante. Et je crois que ce qui nous réunit toutes les deux, c'est la joie et l'optimisme. On peut parfois sembler peut-être naïve ou en tout cas manquer de fond. Les gens peuvent se dire, mais enfin, elle se marre tout le temps, elle rigole tout le temps, c'est bien gentil, mais quand même, tout est en train de s'effondrer en ce moment. Comment est-ce que tu réussis à garder ton pouvoir dans des situations où justement on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est foutu d'avance ? Comment est-ce que tu fais pour ne pas te sentir impuissante par rapport au changement climatique, par exemple ?
Bah, je pense que, comme toi déjà, il y a quelque chose qui nous apporte de la joie dans l'immédiat, c'est l'immédiat, c'est l'instant présent, c'est le moment. Et c'est juste ouvrir les yeux, respirer, écouter. En fait, il y a toujours des trésors partout. Donc, il y a toujours des raisons de se réjouir. C'est hier, j'étais avec mes filles, on se baladait en forêt, et là, il y a eu un coup de vent. Les enfants sont extra pour ça, parce qu'ils voient des trucs qu'on passe à côté. Quand on grandit, on se fait exprès de se faire comme s'il y avait des choses plus importantes, alors que non. Et je me souviens, et là, elle m'a dit, oh, regarde, les feuilles frétillent, les feuilles chantent. Il y a eu un coup de vent et toutes les petites feuilles d'automne un peu sèches. C'est comme un instrument de musique dans les arbres. C'était sublime. Et ça, rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup. Tout vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de... donc, évidemment, moi, mais c'est quelque chose que tu m'as transmis aussi, Lily. C'est, en fait, je fais les choses à mon échelle et je fais comme je peux dans la joie. Il faut pas que ce soit une contrainte. Parce que si c'est quelque chose qui est positif pour moi et que je le fais et que je le transmets et que je le fais naturellement en étant contente, ce sera perçu comme quelque chose de joyeux. Donc, par exemple, chez nous, il y a pas de viande, j'en achète pas au quotidien. Mais c'est toujours joyeux les repas en fait, et c'est même pas, y a, rien ne manque. Et même pour mon copain, il y a pas de manque. Il y a que de la joie. On fait pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que faire passer les choses par la peur, ça ne marche jamais. On les connaît les discours, on sait les résultats, on sait ce qui se passe, on sait la catastrophe. Mais moi, j'aimerais que tout le monde le sache. C'est hyper important qu'on soit au courant, évidemment, mais qu'on qu'on soit pour et pas contre. Donc moi, je suis pour la joie, je suis pour la nature, je suis pour la vie, je suis pour le bio et je suis contre rien en fait. Et je pense qu'on va beaucoup plus loin. Je sais plus qui a dit on peut faire beaucoup, beaucoup avec la haine et encore plus avec l'amour.
Ouais, mais c'est... Alors je serais incapable, je suis nulle moi, hein. Tu sais, j'ai... Au Trivial Pursuit, je perds à tous les coups. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment cette idée de d'avoir une énergie vraiment ouverte à recevoir plutôt que dans la fermeture, parce que effectivement, on peut de toute façon, si on commence à juger nos comportements en fait au quotidien, autant ne rien faire en fait comme effort, puisque les mots qu'on est en train de s'échanger vont demander une forme d'énergie, de stockage, etc., pour être diffusés. Donc en fait, on peut même s'arrêter d'utiliser les outils de communication qui sont les nôtres aujourd'hui, parce que même ceux-là sont polluants. Et donc la vie actuellement sur Terre pour les humains, on est sans arrêt en fait en train de dépasser ce qu'on devrait faire. Donc si moi je mets mon attention là-dessus, je suis désespérée. Mais si d'un seul coup je mets à nouveau de l'énergie de joie, je peux trouver des solutions et je peux faire des efforts là où c'est possible pour moi. Et du coup, et je le fais pas dans une intention de gagner des points, parce que ça, je m'en fiche, mais juste, je crois que l'impact de notre énergie est encore plus fort que notre empreinte carbone. C'est-à-dire que lorsqu'on va transmettre de la joie, on impacte dans son entourage, et pas simplement que nos proches, mais on ne sait pas comment cette vibration va traverser les murs et va impacter les voisins, va impacter un chauffeur de taxi, comme je disais au début du cours, où on a réussi à se faire du bien l'une et l'autre. Moi, j'ai choisi en fait de vibrer le calme, et d'un seul coup, elle s'est complètement apaisée, parce que je lui ai dit, de toute façon... C'est foutu, on sera pas à l'heure, c'est pas grave, c'est ok. Et tout s'est détendu pour l'une comme pour l'autre, parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Et pour moi, ça, c'est la meilleure façon d'être présente à nous-mêmes aujourd'hui. Et ça nous permet, en fait, de faire les bons choix et d'avancer en se disant, bah, ce que tu fais avec les composts, bah, c'est ta petite part de colibri. Et tu le fais pas en disant, oh là là, c'est lourd. Non, t'es super contente parce que tu imagines le terreau que ça crée et la terre qui revient à la terre, et donc ça reste joyeux. Si et on est parti en Grèce ensemble pour une retraite de yoga, et ça a été magnifique de voir à quel point les gens qui nous recevaient ont reçu autant que nous on a reçu, et qu'une relation entre une mère et sa fille a été complètement apaisée, résolue juste par notre présence. Et en fait, ce qu'on est venu faire là-bas, on ne savait pas exactement, mais l'impact qu'on a eu sur ces gens et l'impact qu'elles ont eu sur nous, on s'est chacune échangé de la guérison, et du coup ça va bien au-delà de ce qu'on peut expliquer. Et pendant cette retraite, à un moment, bon, moi je propose des repas sans dessert pour explorer le sans sucre, et c'était assez drôle parce qu'il y a une partie des filles qui sont allées s'acheter des petits biscuits qui s'appellent des caprices. Alors ceux qui sont déjà en Grèce les connaissent, c'est comme des espèces de petits fingers, de petites cigarettes russes au chocolat, mais toutes fines. Et bon, c'est un biscuit industriel. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de dogme, c'est que oui, on a mis le meilleur de nous-mêmes dans ce qu'on faisait. On était vraiment présentes à nous-mêmes. Et en même temps, il y a eu des crises de fou rire parce que les filles se sont achetées ça en douce, que t'en as mangé.
Oh oui, j'en faisais super partie. Je me disais, est-ce qu'elle va me balancer? Oui, ah, j'étais même le leader.
Mais je suis obligée de balancer. Je suis obligée de balancer, pas du tout pour t'humilier, mais non, au mais contraire, pour ouvrir en fait cet espace que... Il n'y a pas les grands méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est complètement illusoire de penser ça. Je crois vraiment qu'au contraire, il y a des efforts collectifs et des efforts individuels, et la somme ensemble avance dans un sens qui est plus positif. Mais si on est sans arrêt en train de se juger et de se dire « Quoi ? T'as mangé des gâteaux industriels alors que t'es naturopathe ?» Mais non, mais rions en fait, parce que tout est possible, et c'est pas... et ce gâteau, on l'a mangé tellement... Enfin, moi j'en ai pas mangé, je dois dire, mais on l'a... Les filles l'ont mangé avec tellement de joie, mais que ça peut pas faire du mal au corps, parce que c'était tellement voilà. Et du coup, l'alimentation pour moi, c'est ça, c'est juste d'être présente, d'être dans la joie, et quel que soit le plat qui va être sur la table, on a le pouvoir de lui donner en fait la puissance de guérison ou pas, quoi.
Alors, complètement, mais dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me touche particulièrement et je trouve que ça manque un peu aux religions. Je viens de faire baptiser mes filles parce que mon copain y tenait et que c'était magnifique. Mais il y a quelque chose qu'on a tellement perdu dans les religions, c'est l'engagement personnel loin des dogmes. C'est le fait de comprendre, de ressentir en soi les choses, de pas les faire pour quelqu'un ou pour machin. Et tu parlais du jugement dont on est encore, dont je suis encore victime aujourd'hui parce que la enfin, moi maintenant, mais mais toujours quand même. En fait, le jugement, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Faut faire ci, faut faire ça. Le côté un peu petit village à s'observer, à se juger et tout ça. Ça c'est tellement loin en fait de ce qui devrait nous animer. Et quand tu nous as appris pendant ce stage en Grèce à nous observer, à se regarder, à voir l'autre, à nous voir nous en l'autre, oh, mais quelle puissance en fait! Quand on comprend que quand on juge, quand quelque chose nous anime, c'est juste que ça résonne en nous. Et qu'on est juste en fait une unité, c'est d'une force. Et c'est très beau. Et ça m'a beaucoup marqué.
Bah merci parce que c'est ce que j'essaie de transmettre. Oui, je crois vraiment qu'à chaque fois qu'on juge l'autre, c'est avec nous en fait qu'on est dur et qu'on a juste à essayer de faire de notre mieux et qu'on est déjà assez et parfait tel que l'on est. Merci Angèle, merci
Merci
beaucoup.
beaucoup, Lily.
Et j'en profite pour avoir une pensée pour quelqu'un que tu as rencontré, qui est parti il y a peu de temps, qui s'appelle Isabelle Mical, qui a été une fille qui m'a éduquée au goût, qui m'a permis de rencontrer Olivier Rollinger et qui m'a permis de découvrir plein de chefs que j'adorais, qui nous a quittés il y a peu de temps. Et paix à son âme, je pense très fort à elle et à sa famille. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous, comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui ?